Chapitre 53. Samuel. Juin 2019. Le visage de Donald apparaît dans l'embrasure de la porte de mon bureau, son téléphone collé à l'oreille. « Chef, j'ai une femme en ligne qui dit qu'elle a des infos pour vous, au sujet de Birdie. » Intérieurement, je saute de joie. Je sens que c'est la pièce qui me manquait. Cette enquête n'a pas rameuté la horde de fous, d'hurluberlus et de plaisantins habituels. Les affaires classées n'attirent pas ces profils-là. Les doudingues aiment danser à la lueur des flammes de l'instant présent, quand les choses sont brûlantes, éblouissantes, volatiles, quand chaque seconde compte. Cet appel est important, j'en suis convaincu. Tu me la passes, s'il te plaît. Je m'éclaircis la voix et j'attrape un crayon. Bonjour, inspecteur Owusu. Que puis-je faire pour vous?
Bonjour, je m'appelle Catman Waring. J'appelle de Cowbridge, au Pays de Galles. C'est au sujet du corps que vous avez trouvé, la jeune femme qui était dans le groupe de musique, Birdie.
J'entends des pages qui se tournent, elle consulte ses notes. Birdie Dunlop Evers, suggérais-je.
Oui, voilà. Dans l'article du Guardian, c'est écrit que la dernière personne avec qui on est certain qu'elle ait vécu était son petit ami, Justin Redding.
Oui.
Alors, je ne sais pas si ça vous sera d'une grande aide, et peut-être que je me fais des films et que vous allez me trouver ridicule. Mais je suis presque sûr que ce Justin, c'est mon jardinier. Et sauf qu'il ne s'appelle pas Redding, il s'appelle Ugley.
Pardon?
Le jardinier, son nom de famille, c'est Ugley, U-G-L-E-Y.
Justin Ugley.
Exactement.
Je réprime l'envie de formuler un commentaire moqueur sur le fait qu'il ait été bien avisé de choisir un nom de scène, vu comme le vrai est laid. Puis je me racle la gorge. Et quel âge a Monsieur Ugley environ?
Je dirais 50, 55.
Je hoche la tête, ça correspond. Il s'occupe de votre jardin depuis longtemps?
1 ou 2 ans.
Pourquoi pensez-vous que c'est lui?
C'est son visage, en fait. La photo qui illustrait l'article est celle du groupe. Je me souviens d'eux, mais je n'avais en tête que les traits du chanteur principal. Je n'avais jamais réellement regardé les autres membres avant. Mais quand je l'ai vu sur la photo, j'ai eu un petit déclic. Je ne pouvais plus respirer. C'était lui, Justin.
Et où vit-il en ce moment?
Eh bien, il n'est pas vraiment sédentaire, vous savez. Je crois qu'il habite dans un camping-car, mais je l'ai aussi vu sortir d'une maison 1 ou 2 fois au village.
Et ce camping-car, vous savez où il est stationné?
Oui, dans l'un des champs derrière la zone d'activité.
Quelle zone d'activité?
Celle de Cowbridge, sur la 4222. C'est à 5 minutes à l'est de la ville.
Si je venais maintenant... Vous pensez que je pourrais l'y trouver?
Je n'en sais rien. Il travaille pour moi les mardis et jeudis. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait le vendredi. Je ne sais presque rien de lui, pour être honnête. C'est quelqu'un de très gentil, mais je crois qu'il a des problèmes.
Quel genre de problème?
La boisson, déjà. C'est un alcoolique. Et je pense qu'il a fait de la prison aussi.
Globalement, c'est un peu un marginal. Est-ce qu'il vous a déjà dit qu'il était musicien quand il était jeune?
Non, jamais. Mais je l'ai déjà vu au pub du centre jouer du tambourin avec un groupe du coin.
C'était pas le sien. Il a pris l'instrument et s'est mis à jouer.
C'était comme s'il était attiré par la musique, en quelque sorte. Ça me fait penser que ça pourrait être lui, non?
C'est possible.
Et il y a un autre aspect qui a attiré mon attention dans l'article. Ça parlait de la maison où Birdie était peut-être morte. Une histoire de suicide collectif et de gens qui s'étaient empoisonnés avec une décoction qu'ils avaient fabriquée. Justin nous a déjà proposé de nous faire un jardin d'herbes médicinales. Il était apothicaire avant. Il a passé plusieurs années dans une petite exploitation à cultiver des plantes et préparer des remèdes. J'ai essayé d'en savoir plus, mais il ne voulait pas donner de détails.
J'exprime mon intérêt à Catman Waring, en ponctuant son explication de petits sons enthousiastes, tout en prenant des notes qui ne sont en réalité que des gribouillages inspirés qui traduisent l'excitation qui commence à me gagner. Je pense que cet individu est bel et bien Justin Redding. J'y crois dur comme fer.
Je vous le répète, c'est un homme adorable, mais brisé, au bord du gouffre, si l'on peut dire. Si c'est lui, s'il s'agit bien de Justin Redding, je ne veux pas qu'il se fasse embarquer et s'attire des ennuis pour un crime qu'il n'a pas commis. Je me sentirais très mal. Vous pensez vraiment que c'est lui qui a fait ça?
Madame Manwaring, je ne peux vraiment pas divulguer ce genre d'éléments. Mais je suis convaincu qu'il aura des informations importantes concernant la maison où Birdie est morte et qu'au moins il nous aidera dans notre enquête.
Vous allez venir alors ?
Oui, je viens à Cowbridge. Selon Google Maps, il faut 3h30 pour se rendre à Cowbridge, un aller-retour de 7h. J'ai rendez-vous avec Libby Jones et Miller Rowe ici au commissariat à 15h. Et même si je partais tout de suite, je devrais faire demi-tour immédiatement en arrivant pour ne pas manquer l'interrogatoire. J'appelle Donald. J'ai un gros service à te demander. Quand Libby Jones et Miller Rowe viendront cet après-midi, est-ce que tu pourrais mener l'entretien ? Je dois aller au Pays de Galles. Je rentrerai le plus rapidement possible, car il faut que je les voie aussi. Bien entendu, il accepte. Il adore les interrogatoires. Je vais chercher la voiture devant le commissariat, tape « zone d'activité Cowbridge » dans le GPS et me mets en route. La campagne britannique est de toute beauté, surtout au mois de juin. Les champs brillants de colza, les touffes d'arbres au sommet des collines, les jardinières inclinées débordant de fleurs aux fenêtres des pubs. J'ai mis de la musique, un mélange de chansons pop et de morceaux de jazz des années 20, où l'on entend le bruit de l'aiguille qui se pose sur le vinyle. Je roule la fenêtre ouverte et le cœur optimiste. J'ai demandé à Kat Manwaring si elle avait le numéro de Justin Ugly, et elle m'a répondu que, à ce qu'elle sache, il n'avait pas de portable. J'arrive sans avoir pu m'annoncer, il ne sera pas préparé, et c'est la meilleure façon pour moi de le cueillir, au naturel. Je quitte la route principale quelques encablures après la zone d'activité et m'engage sur le chemin d'une ferme que m'a décrite Kat Manwaring dans les derniers instants de notre appel. Au bout de quelques minutes, j'aperçois la forme d'un camping-car au-dessus d'une haie. Je suis arrivé. Le véhicule noir et or est agrandi par un auvent sous lequel se trouve un fauteuil, un tapis élimé et une table où s'empilent des livres. Je vois aussi les restes d'un déjeuner. Un trognon de pommes, un sachet de chips vide, des miettes et une serviette froissée. Je distingue de l'agitation par les hublots à l'arrière du véhicule et sors de ma voiture. Le mouvement s'arrête quand je fais claquer ma portière. Je range mes lunettes de soleil dans ma poche et m'avance vers le camping-car. La porte est ouverte. « Justin Ugly !» appelai-je. Il prend son temps. Mais quand il s'encadre dans l'embrasure de la porte, je suis pris de court. Je remarque qu'il a une réaction similaire. Après tout, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur dans ce coin-là. Son apparence m'alarme, parce qu'il est très sale. Pas comme quelqu'un qui ne se laverait jamais, mais comme quelqu'un qui se serait littéralement roulé dans la terre. Ses vêtements, sa figure, ses cheveux, ses bras, tout est recouvert. « Oui ? Bonjour, monsieur Ugly. » « Je suis l'inspecteur Owuzu. Je travaille pour la police judiciaire de Charing Cross à Londres. Est-ce que vous auriez le temps de répondre à quelques questions ?»« À quel sujet ?» Il s'essuie les mains avec un torchon mouillé, et je vois des tatouages apparaître. Je vois aussi des piercings sur son visage qui attirent la lumière à l'arcade sourcilière, au nez, aux oreilles. Et ses cheveux sont longs, attachés dans la nuque par un bout de tissu. Il me fait penser à un homme d'une autre époque, d'une autre temporalité. Malgré la saleté, la coiffure et les piercings, je constate que Kat Manwaring ne s'est pas trompé. J'ai devant moi l'homme des photos du groupe de Birdie, The Original Version. Je voudrais discuter avec vous d'une femme nommée Bridget Dunlop-Evers, Birdie pour les intimes. Je crois que vous avez été en couple avec elle il y a longtemps. Comment est-ce que vous savez ça ? « Et comment vous m'avez trouvé ? Je ne comprends pas. Ça fait au moins 20 ans que je ne l'ai pas vue. Plus que ça, même. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle va bien ?»« Non, malheureusement, monsieur Ugly. Sa disparition avait été signalée par sa famille en 1996, mais elle n'avait jamais été retrouvée. Et il y a environ 2 semaines, nous avons découvert ses ossements sur les berges de la Tamise. J'observe sa réaction. Il a l'air sincèrement choqué. » Mais je ne saurais dire si c'est parce qu'il vient d'apprendre la mort d'une ancienne conquête, ou si c'est parce que le crime qu'il a commis 25 ans plus tôt en pensant s'en être tiré vient de le rattraper.
Vraiment ?
Oui, j'en suis navré.
Mais comment ? Enfin, qu'est-ce qui ?
Un traumatisme crânien. Il tressaille.
Mais vous savez, enfin, je ne l'ai pas vue depuis tellement longtemps. La dernière fois, elle était vivante, déjà. Je ne crois pas que je puisse vous révéler quoi que ce soit, ni vous aider, sincèrement.
Je comprends, monsieur Huxley, bien sûr. Mais il me serait extrêmement profitable de discuter avec vous de ce dont vous vous souvenez de la période où vous viviez ensemble à Chelsea. » Il hoche la tête. « Ma théorie est donc la bonne. Birdie et Justin s'étaient installés dans la maison de Chainwalk à la fin des années 80. »
« Vous voulez discuter maintenant ?»«
Oui, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas trop occupé.
J'aurai besoin de quelques minutes, si ça vous va, pour faire un brin de toilette. »
« Bien sûr, j'attends ici, prenez votre temps. » Il émerge 5 minutes plus tard avec des vêtements propres, un t-shirt et un jean, et ses cheveux sont brossés et attachés correctement. Il a un visage intéressant, avec un nez aquilin, des yeux noisettes très brillants, bien que ce soit sans doute les plus tristes que j'ai jamais vus, et j'ai de l'expérience dans le domaine. Les tatouages de ses mains remontent le long de ses bras et disparaissent sous les manches de son t-shirt. Des serpents, des crânes, des croix.
Désolé pour l'attente. Vous voulez un thé ou autre chose?
Ça ira, merci. J'ai de l'eau. Il désigne un tabouret pliable sur lequel je m'assieds. Je vais prendre des notes si ça ne vous dérange pas.
Allez-y.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment vous vous êtes retrouvé à vivre dans la maison de Chainwalk et ce qui s'y est passé quand vous y habitiez? Il me semble qu'un clip vidéo y avait été tourné.
Exact. C'était en 1988, je dirais. Cette foutue Birdie avait récupéré un chat. Alors on s'est fait virer de notre appart, et cette femme, Martina, nous a proposé une chambre. Je pensais que ce ne serait que pour quelques jours. Mais ça a duré, mon Dieu, un temps infini. Et c'était un vrai merdier, complètement barré.
Voilà. Enfin ce que j'attendais. Pourquoi est-ce que c'était aussi malsain?
Ah là là, je ne sais même pas par quoi commencer.
Vous pourriez reprendre du début. Alors cet homme au visage scintillant de métal, à la peau recouverte de dessins, aux jambes zébrées de cicatrices, aux yeux infiniment tristes, me raconte l'histoire d'une famille privilégiée assise sur une fortune inimaginable. Complètement déprimé dans son simili-château au bord de la Tamise. D'un père, un être paresseux, indolent, sans rien pour lui, tombé malade. D'une femme, Birdie, vivant dans le simili-château et qui introduit un guérisseur venu avec son épouse et ses 2 enfants. 10 personnes vivant dans une maison qui en accueillait autrefois 4. Et le guérisseur qui s'était progressivement approprié tout ce qu'avait le paresseux. Sa fortune, sa femme, sa liberté, sa dignité.
J'ai parti au bout de 2 ans, à peu près.
J'entends la souffrance dans sa voix.
C'était une erreur. J'aurais dû rester pour les enfants. Mais je ne pouvais plus le supporter. Pas une seconde de plus. C'était insoutenable. Birdie était devenue complètement folle. Elle prenait son pied alors que c'était devenu la maison des horreurs.
Quel genre d'horreur?
C'était surtout un calvaire pour les enfants, gardés enfermés, des heures d'exercice physique par jour, des heures à apprendre le violon. Ils n'avaient pas le droit de porter des vêtements normaux ni de s'abuser. Pas de télévision, pas d'amis, des punitions étranges. C'était juste. C'était vraiment malsain. Et Birdie était complètement obsédé par lui.
Par qui?
David, le guérisseur.
David comment?
Thompson. David Thompson.
Je sens le bout de mes doigts qui tiennent le stylo devenir moite, et je les essuie sur mon pantalon, puis j'écris le nom Thompson.
Avec un E,
me corrige Justin en regardant mon calepin. Pardon?
C'est Thompson avec E.
Oh, merci. Et le nom des membres de sa famille?
Sa femme s'appelait Sally. Sa fille Clemency et son fils Phineas.
Voilà, enfin. Les morceaux manquants trouvent leur place l'un après l'autre. Ces prénoms sont bibliques, spirituels. Ils sont liés à Serenity, le nom de naissance de Libby Jones. Une certaine unité les rassemble.
Qu'est-ce qu'est devenue cette famille? Je n'en sais strictement rien. J'en avais ras-le-bol. Il fallait que je me barre. J'ai rencontré une femme au marché où je vendais mes onguents et mes remèdes. Elle possédait une petite exploitation au Pays de Galles. Elle m'a proposé de rejoindre son équipe. J'ai fui.
J'ai pris mes jambes à mon cou. C'était affreux de laisser les enfants, bien sûr, mais j'avais absolument besoin de partir. Quitter Birdie, David, Londres, tout ça. Je sais que j'aurais dû revenir, vraiment, pour m'assurer qu'ils allaient s'en sortir, les enfants, mais... Il soupire, et je vois un voile humide recouvrir ses yeux. « Vous savez, vous, ce qui est arrivé aux enfants ?» demande-t-il doucement. « Non, » réponds-je en secouant la tête. « Pas encore. On essaie de les retrouver. Mais ils sont vivants. Malheureusement, monsieur Ogley, nous n'avons aucune certitude à l'heure actuelle, » réponds-je avec un sourire attristé. Il hoche le menton, et une larme dévale sa joue, avant qu'il l'essuie avec le dos de sa main tatouée. « Vous êtes resté en contact avec Birdie après votre départ ?»« Non, je ne lui ai plus jamais parlé. Jamais une nouvelle, jamais revue. J'ai beaucoup pensé à elle, par contre. Je ne savais pas qu'elle avait disparu. Je ne savais pas qu'elle... »« Vous n'avez pas lu les articles dans la presse à l'époque, sur le suicide collectif ?»« Non, oh là là, non, pas du tout. » Là où je travaillais, c'était une sorte de petite communauté indépendante, vous savez. On n'avait pas la télé, on ne lisait pas les journaux, on vivait en autarcie. Pendant combien de temps? Oh, j'y étais pendant... Il déglutit et cligne deux fois des yeux. Il revit clairement des émotions puissantes. Pendant environ 10 ans, j'étais... Il déglutit à nouveau... Puis se racle la gorge et change de position dans le fauteuil. Il serre les poings et sa lèvre inférieure tremble. Ce n'était pas une solution à mes problèmes, cet endroit. J'ai un peu perdu les pédales. Trop de drogue, trop d'alcool. Pour essayer de tout oublier, j'ai fait plusieurs séjours en prison. Puis, il y a 2 ans, je suis sorti pour la dernière fois. J'ai acheté le camping-car et depuis je reste au calme, vous voyez. J'essaie de garder mes démons à distance, de mener une vie apaisée. Et non, je ne sais rien sur les Thompson ou Birdie, rien du tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est la météo, la terre, les saisons, ce que je vais manger. Et maintenant, il esquisse un geste vers moi. Un inspecteur de Londres, complétais-je. Oui, la police judiciaire. J'aimerais sincèrement pouvoir vous aider, mais je ne crois pas que ce soit possible, parce que quand les événements se sont produits là-bas, j'étais déjà parti, j'avais déjà quitté le navire. J'attrape mon stylo pour laisser le temps aux nuages sombres du deuil et de la culpabilité de se dissiper, afin que l'horizon soit à nouveau dégagé. Quand vous viviez à Chelsea, vous cultiviez des plantes, n'est-ce pas? Oui. « Est-ce que vous faisiez pousser de la belladone à l'époque ?»« Oh non ! Je n'aurais jamais cultivé un truc pareil, et surtout pas dans une maison avec des enfants. » Je me redresse sur le tabouret en réfléchissant à la tournure de ma prochaine question. On en a trouvé dans ce qui restait du jardin d'herbes médicinales. C'est l'essence qui a été utilisée pour les suicides. Est-ce que vous auriez idée du comment cette fleur aurait pu pousser dans votre jardin ? Qui aurait pu la semer? Cette question semble le déstabiliser. Non, je ne sais pas. Selon vous, personne d'autre dans la maison n'aurait pu cultiver cette plante. Un silence s'ensuivit avant qu'il ne réponde. Pas à ma connaissance. Mais qui sait? S'ils avaient prévu de se suicider, peut-être que l'un d'eux aurait pu prendre le relais. J'avais laissé un livre dans ma chambre, un livre de sorts et de potions, et mon coffre d'apothicaire qui était plein de graines. Je ne sais pas ce qu'était la moitié d'entre elles, mais il y avait peut-être de l'Atropa belladonna là-dedans. Oui. Je repère au moins 3 signes de mensonge dans sa réponse, mais je ne parviens pas à déterminer s'il agit ainsi pour se protéger ou pour protéger quelqu'un d'autre. Ça aurait donc pu être n'importe qui dans la maison. Oui, j'imagine. À part les enfants, bien sûr. Ah oui, les enfants. Quelle est votre théorie à leur égard? Ils ont tous disparu? D'après ce que vous savez, pourquoi est-ce qu'ils auraient voulu s'enfuir? Et où auraient-ils pu aller?
Le plus loin possible de la maison, j'espère, s'ils avaient un peu d'instinct de survie.
Mais ils étaient assez jeunes. Qui aurait pu les aider?
Je ne sais pas. Peut-être la mère de Finn et Clemency.
Sally, j'ignore ce qui s'est passé dans cette baraque après mon départ. Qui est arrivé, qui est parti? J'aimerais que ce soit différent. Mais c'est comme ça.
À ce moment-là, mon téléphone vibre dans ma poche. Je m'excuse auprès de Justin. C'est un message de Donald. Interpol nous a envoyé les photos des individus entrés sur le territoire des États-Unis sous les noms de Phineas Thompson et Mary Caron. Je clique sur celle de Marie et la montre à Justin.
Vous reconnaissez cette femme ?
Il plisse les yeux et agrandit l'image avec ses doigts.
Mon Dieu ! C'est... Oui, c'est elle. C'est Lucy Lamb, la fille de Henry et de Martina. Elle ressemble exactement à la petite fille qu'elle était à l'époque.
Mon portable vibre à nouveau. Un autre document. Cette fois, c'est une vidéo de surveillance d'un homme alors qu'il quitte l'aéroport. Je la montre à Justin, qui la regarde trois fois.
Le passeport de cet homme est au nom de Phineas Thompson.
« Ce n'est pas Finn, » affirme-t-il.
Son attitude a complètement changé en découvrant la vidéo. Il se redresse et s'anime.
« Non, j'en suis sûr. C'est Henry. Je reconnaîtrai sa démarche entre mille. »«
Sa démarche ?»«
Oui, vous voyez comme ses pieds martèlent le sol, là. C'est Henry Lamb. Mais quand je l'ai connu, il avait les cheveux châtains, pas blonds. Il doit se les teindre. Et c'est bizarre. C'est presque comme si... »
Il étudie à nouveau la vidéo.
C'est comme s'il essayait de ressembler à Finn. Quand ils étaient jeunes, il était complètement fasciné par lui. Obsédé même. Là, on dirait qu'il s'est transformé en Finn.
Un frisson me parcourt l'échine sans que je sache pourquoi. Il faut que je rentre au commissariat pour conclure l'interrogatoire de Libby Jones et Miller Rowe. Alors j'amorce un mouvement de départ. Mon stylo et mon calepin retrouvent leur place dans ma poche. Notre conversation me paraît terminée quand Justin me pose une question.
« Je ne comprends pas vraiment, en fait. Vous cherchez qui a assassiné Birdie ?»«
Oui, c'est ça. »«
Mais c'est un peu évident, non ?»«
Ah ?»«
Oui, c'est forcément David Thompson. C'était un homme violent et mauvais. Il avait le mobile puisqu'il avait des relations amoureuses avec Sally, Martha et Birdie. Il a dû la tuer avant de se suicider, non ?»
Je hoche la tête. « Oui, c'est ce qu'on aurait pu penser. Mais les restes de Birdie ont été déplacés de la maison de Shenwick il y a seulement un an, par quelqu'un qui savait où se trouvait le corps, qui savait également que, s'il n'était pas retiré, les nouveaux propriétaires les découvriraient et que ce vieux secret serait alors mis à jour. Quelqu'un qui devait donc avoir peur d'être démasqué. »
Justin prend le temps d'intégrer cette information. Son visage ne traduit rien de particulier. Il acquiesce puis respire profondément.
Ouais, je vois. Ouais.
Puis il se lève bien droit, les mains le long du corps.
C'est tout ?
Oui, merci. Vous m'avez beaucoup aidé et donné de nouvelles pistes.
Henry fait partie des suspects ?
Oui, tout à fait.
Pauvre Henry.
« Pourquoi dites-vous cela ?»«
Ils étaient tous à plaindre. C'étaient tous des victimes. Peu importe ce qui s'est passé dans cette maison. Aucun d'eux ne devrait être puni pour cela. Aucun d'eux. »